Radio Okapi.
Bonjour à tous, bienvenue à ce journal de midi sur Radio Okapi, au micro Patience Ngalula. D'abord les titres. Les jeunes de l'Ituri invités à intérioriser les valeurs démocratiques qui sont enrôlés dans les groupes armés pour exprimer leur voix. L'invité du Parlement des jeunes de l'Ituri fait ce jeudi à Bounia à l'occasion de la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance célébrée chaque 4 janvier. Retour au calme ce jeudi dans la commune de Luena, située dans le territoire de Bukama, province du Haut-Lomami, après une journée agitée. Des hommes que plusieurs habitants de Luena qualifient de Maïmaï Bakatakatanga ont investi la police, exigeant la libération d'un de leurs. L'invité de ce journal, c'est l'écrivain André Yoka. Il revient sur l'histoire du 4 janvier 1959 et loue le courage et l'héroïsme des martyrs qui ont déclenché les processus ayant abouti à l'indépendance du pays le 30 juin 1960. Des jeunes de l'Ituri doivent capitaliser l'esprit patriotique des martyrs qui ont milité pour l'obtention de l'indépendance de la RDC en vue de contribuer au développement de cette province. C'est le message du Parlement des jeunes de l'Ituri fait ce jeudi à Bounia à l'occasion de la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance célébrée chaque 4 janvier. C'était au cours d'une journée de sensibilisation sur la lutte citoyenne et non violente. Selon les organisateurs, l'objectif est d'amener les jeunes à intérioriser les valeurs démocratiques qui est s'enrôler dans les groupes armés pour exprimer leur voix. Martial Kizabiamungu.
Cette journée a été marquée par une brève historique de la date du 4 janvier 1959 qui marque le début de la lutte pour obtenir l'indépendance de la RDC. Selon des organisateurs, la démarche est de montrer aux jeunes d'aujourd'hui comment bannir les comportements d'antivalaires afin de mettre en avant la lutte citoyenne et non violente dans toutes leurs revendications. Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes de l'Ituri, explique l'essence de cette initiative selon les contextes sécuritaire de l'Ituri.
Ils sont appelés à mener une lutte citoyenne non violente, à éviter les armes comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, afin que nous puissions mettre toute personne qui veut amener l'insécurité chez nous en Ituri dehors.
Batik Palou, Jean-Paul, vingtaine d'années, parmi les participants s'allient la mémoire de tous les martyrs qui ont perdu leur vie pour une cause noble. Un exemple à suivre selon lui pour la nouvelle génération.
Il fallait comprendre qu'il y a un groupe de gens qui se sont soulevés contre un système, mais en 2024 aujourd'hui, la jeunesse, elle ne doit pas se laisser manipuler.
Les parlements des jeunes de l'Ituri comptent multiplier des genres de sensibilisation à l'intérieur de la province où les groupes armés sont actifs. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans le même registre, l'écrivain André Yoka a salué ce jeudi le courage et l'héroïsme des martyrs du 4 janvier 1959. Il l'a dit dans un entretien accordé à Radio Okapi. Pour André Yoka, ces héros de l'histoire politique de la RDC semblent être oubliés de la génération actuelle. Il a proposé que ces Congolais soient non seulement commémorés, mais également enseignés dans les écoles. À cette occasion, André Yoka a également salué les combats politiques menés par les leaders de l'Alliance des Bas-Congo à Bako de l'époque, Joseph Kasavubu, Nzenzalandou, Pinzi, Kingotolo et autres, pour amener le pays à l'indépendance. André Yoka l'a dit au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Il faut que nous puissions nous remémorer ces moments-là. Il faut que les livres d'histoire reviennent sur le courage, l'héroïsme de nos pères, de nos grands-pères qui, ce jour-là, se sont levés comme un seul homme pour dire non à la colonisation et de la manière qu'il fallait. Je crois que nous ne leur rendons jamais assez hommage pour ce qu'ils ont fait. Je parle, moi, du 4 janvier 1959, parce que le 30 juin, c'est venu après, c'est une bénédiction du 4 janvier. Et donc, je pense que les écoles, les cérémonies devaient être beaucoup plus méditatives que ce que nous faisons d'habitude. Il faut reconnaître la contribution de la BACO comme étant le fer de lance de ce mouvement-là, a été déterminant pour ainsi précipiter l'indépendance du pays. Précipiter pourquoi ? Parce que le 13 janvier, le roi des Belges, paniqué, fait une déclaration gouvernementale.
L'écrivain André Yoka sera notre invité tout à l'heure dans cette édition. La province du Nord-Kivu a organisé ce jeudi à Goma une messe d'action des grâces pour célébrer la journée des martyrs de l'indépendance en RDC. Plusieurs cadres politico-administratifs, responsables des confessions religieuses et chefs d'agence du système des Nations Unies y ont pris part. C'était une occasion pour les vice-gouverneurs policiers de faire appel à l'unité et l'engagement pour la paix dans la région. Bernard Nyangi.
Dans son homélie, l'évêque du diocèse catholique de Goma, Mgr Willy Ngombi, a appelé à l'amour du prochain pour honorer la mémoire de tous les martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959.
Aussi longtemps qu'il y aura des personnes qui vivent encore dans des camps de déplacés, aussi longtemps qu'il y aura des fonctionnaires de l'État sans salaire, nos frères et sœurs morts ce 4 janvier, leur mémoire reste vaine.
Pour le vice-gouverneur policier, autant il convient d'honorer la mémoire des martyrs de 1959, autant il faut honorer les autres martyrs du temps présent, commissaire divisionnaire Romi Ekokalipopo.
Pensez à Emery Patrice Lumumba et d'autres. Ils ont été religieux, ils ont été militaires et ils ont été anonymes. Les déplacés de cette guerre.
Le Nord-Kivu ayant connu près de tant de guerres, qui a déjà fait des milliers de morts, dont des militaires, le secrétaire général administratif de l'Université des martyrs du Congo, présent à cette messe d'action de grâce, se réjouit ce jour de la création de son institution universitaire. Pour le doctorant Philippe Axanti, cette initiative est une des actions qui honore ces martyrs de l'RDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis à Beni, après le fête de fin d'année, l'engouement a diminué aux principaux marchés de la ville. C'est notamment le cas du marché central des Kilokwa ou de celui des légumes, dit marché Mayangose. Toutefois, certains vendeurs rencontrés sur place affirment que la vente de leurs articles pendant la période des fêtes a boosté leurs capitaux. C'est un reportage de Guylaine Kassassia.
Pendant les fêtes de fin d'année, le prix de plusieurs articles et produits avait doublé, voire triplé sur le marché de Beni. Face à l'afflux des clients, les commerçants affirment avoir réalisé de bonnes affaires. Shadrach Bouléré est vendeur de souliers pour enfants, il témoigne.
Une paire coûte 2000 francs congolais. Pendant la fête, nous avons haussé jusqu'à 5000. Les clients étaient nombreux. Je pouvais facilement clôturer des 100 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, atteindre même 30 000 francs congolais, c'est par grâce.
Masandila Wakwinga, vendeur de pommes de terre, confirme.
Nous nous sommes tellement retrouvés pendant les festivités parce que nous étions obligés de hausser les prix. Nous avons fixé les prix de la pomme de terre à 2000 francs le kilo, alors qu'aujourd'hui, c'est 1700 francs après la fête. Mais nos fournisseurs aussi avaient haussé les prix, ce qui nous a poussé à hausser aussi. Pendant la fête, le kilo de l'oignon avait atteint 5000 francs. Aujourd'hui, nous les vendons à 4500 francs.
Résultat, de nombreux produits traînent depuis le 1er janvier sur les étalages de ces vendeurs, faute des clients. Les quelques rares rencontrés au marché expliquent que les fêtes de fin d'année les ont ruinés. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
En Ituri, l'entrée des Congolais en Ouganda sans payer les visas est effective depuis ce jeudi, tel qu'annoncé hier par le ministère congolais de la coopération régionale. Selon les services spécialisés ougandais, les voyageurs doivent préalablement obtenir les visas en ligne et être munis de leur passeport ou laissez-passer individuel. De nombreux commerçants se réjouissent de la mise en œuvre de cette mesure de libre-échange pour la promotion de l'économie de cette province affectée par les conflits armés depuis environ 2 décennies. Isaac Remoyope.
Les Congolais arrivés ce jeudi dans les localités Lakisre de Toroko et Bougoum en Ouganda ont été agréablement surpris d'être exemptés des frais de visa de 50 dollars. C'est là en application de la mesure de libre-échange de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC qui est entrée en vigueur depuis le 11 juillet 2022. Cependant, ces voyageurs ont été soumis à certaines formalités. Selon les services d'immigration de l'Ouganda, ils doivent être munis de leur passeport, un tenancier de passeport, un laissez-passer individuel ou un jeton pour les riverains. Ils doivent également obtenir les visas en ligne sollicités au préalable avant les voyages. À défaut, ils sont obligés de payer environ 6 dollars américains en monnaie ougandaise. La plupart des Congolais qui n'ont pas été informés de cette disposition ont dû payer ce jeudi cette somme. Par contre, les ressortissants de l'Ouganda qui entrent en RDC continuent de payer 50 dollars de visa pour un séjour d'un mois dans les localités frontalières et 183 dollars à l'intérieur du pays. Les services d'immigration congolais disent n'avoir pas encore reçu l'instruction du gouvernement pour l'application de cette mesure des libre-échanges qui est réciproque entre tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je l'ai dit au sommaire, retour au calme ce jeudi dans la commune de Luena, située dans le territoire de Bukama, province du Haut-Lomami, après une journée agitée. Des hommes que plusieurs habitants de Luena qualifient de Maïmaï Bakatakatanga ont investi l'état-major du commissariat de la police, exigeant la libération d'un des leurs. Cette situation a créé la panique, obligeant plusieurs personnes à rester terrées chez elles à cause des crépitements des balles qui ont été entendus. D'autres détails avec Jean Gandou.
D'après le chef relais de l'UENA, ce mercredi, peu avant 16h heure locale, près de 40 personnes munies d'armes blanches, dont les lances, les couteaux, les bâtons et autres amulettes, avec des bandelettes rouges autour de la tête, ont investi l'état-major du commissariat de la police à l'UENA. Ils ont descendu les drapeaux nationaux et hissé les leurs. Par cet acte, ils exigeaient la libération d'un des leurs, arrêté il y a quelques jours dans la localité de Mukulakulum, située à une dizaine de kilomètres de l'UENA. Les policiers présents au commissariat ont vite alerté les forces de l'ordre qui sécurisaient les personnes qui ont fui les menaces des jeunes de Luena et qui se retrouvent en gare. Ces policiers sont allés sur les lieux pour s'en convaincre. D'après le chef relais de Luena, un de ces hommes a voulu ravir l'arme d'un commandant. C'est ainsi que les autres ont ouvert le feu. Un des assaillants a été atteint à la jambe et trois autres, dont une femme, ont été arrêtés. Leur drapeau a été enlevé et remplacé par celui du pays. Nous apprenons que celui qui a été atteint s'est vu amputer la jambe. Plusieurs personnes à Luena se demandent pourquoi les autorités n'ont toujours pas pris la mesure de la chose pour décourager ces hommes, car ils habitent à Luena et leur bastion est connu de tous. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Toujours à Luena, de nombreux ressortissants de l'espace Grand Kassai sont toujours dans la gare de Luena. Ils y passent la nuit à la Belle Étoile après avoir été expulsés de leur maison, pour les uns par des jeunes des communes urbano-rurales du territoire de Bukama et pour les autres à cause des menaces dont ils ont été victimes de la part des autochtones. La société civile locale, qui déplore leurs conditions de vie, demande à l'État de les sécuriser pour que chacun retourne dans sa maison et qu'ils reprennent leurs activités comme par le passé. On écoute Johnny Ndai Kalumba, coordonnateur de la société civile de Luena, joint par Jean Gandou.
Il est en train de pleuvoir chaque jour. Nous avons des enfants, même des vieillards, qui sont en train de passer la nuit à la Belle Étoile. Ils peuvent attraper des maladies, qui rentrent à la maison pour reprendre la vie normale. La commune de Luena ne peut pas être développée avec une seule tribu. Luena doit être développée avec tout le monde. C'est pourquoi nous demandons la tranquillité. Nous sommes capables d'habiter avec tout le monde pour notre développement. À nos frères qui sont en gare, nous les demandons aussi de rentrer sans crainte à l'État qui prennent les dispositions. Chacun rentre chez lui avec une meilleure sécurité. Nous sommes obligés de rester ensemble. Nous tous, nous sommes des Congolais.
À Kalemi, les services de sécurité ont présenté ce mercredi au ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika quatre présumés coupeurs de route, dont une femme. Ces derniers sont accusés d'avoir attaqué deux membres du gouvernement du Tanganyika au mois de décembre sur l'axe Nyuzu à 75 km de Kalemi. Les victimes s'est rendues à Kabalo pour assister les sinistrés des dégâts causés par deux éléphants. Explication Paul Munanga.
D'après le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, les présumés bandits avaient à leur possession une moto neuve et des effets personnels d'un des membres du gouvernement provincial du Tanganyika, victime de l'attaque. Les personnes arrêtées rejettent ces accusations, mais précisent qu'elles ont aidé des bandits armés à transporter leur butin et ont été récompensées pour ces services rendus. Pour rappel, le 11 décembre dernier, le ministre de la Santé et celui des Transports qui se rendaient à Kabalo sont tombés dans une embuscade tendue par des bandits sur l'axe Nyuzu. Le ministre provincial de l'Intérieur précise que les deux membres du gouvernement provincial avaient en leur possession une trentaine de millions de francs congolais destinés aux sinistrés de Kabalo, victimes des dégâts causés par des éléphants. Les malfrats les ont dépouillés de cette importante somme d'argent et de leurs effets personnels. Dieudonné Kasaka, ministre provincial de l'Intérieur, indique que les personnes arrêtées sont gardées au cachot de la 22e brigade de réaction rapide et seront transférées à l'auditorat militaire de Kalemi. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Dans le Congo central, près de 2000 hectares de cultures de manioc, de maïs, arachides, bananiers et autres cultures maraîchères dans les vallées de plusieurs rivières, dont Kokozi et Mvoisi, dans les secteurs de Boko et Kouilou-Ngongo, en territoire des Mbanzangungu, sont dévastés par les inondations causées par une forte pluie qui s'est abattue sur cette contrée dans l'après-midi du 2 janvier jusqu'au matin du 3 du même mois. Victor Nzuzi Mbembe, un des acteurs de développement des Mbanzangungu qui livrent l'information, indique qu'à l'heure actuelle, les paysans sont en train de récolter précipitamment avant la période prévue. Mais malheureusement, plusieurs cultures sont déjà endommagées. Ces derniers redoutent une famine dans cette contrée et une hausse des prix de plusieurs cultures en cette année dans certains contrées de consommation de la province. Victor Nzuzi Mbembe explique au micro des Nana Mambou.
Nous avons des dégâts énormes. Le maïs, le manioc, les cultures maraîchères comme tomates, toutes ces cultures sont sous eau, même le bananier. Eh bien, la récolte devait commencer en principe au mois de février, mars, jusque vers le mois de mai. Et donc là, c'est dans la précipitation qu'on doit récolter pour éviter le pourriture. Donc c'est une situation qui aura un impact très, très négatif dans la mesure où même le boutir qu'on doit planter en saison B, au mois de mars et avril, nous allons manquer ce boutir parce que tout ce qu'on est en train d'arracher maintenant, ça va sécher. De même pour les semences d'arachide ou de maïs, nous aurons des problèmes parce que tous ces champs-là inondés, c'est des cultures perdues. Que les autorités viennent assister le paysan en semence et autres intrants. Mais que les autorités assistent aussi le paysan en matière d'encadrement. Un encadrement par rapport à la résilience, maintenant qu'on parle du changement climatique. Et à la fin, il faudrait que les autorités assistent le paysan en matière de terres. Il n'y a pas assez de terres dans le milieu parce que toutes les terres sont occupées par des grandes entreprises qui sont dans le milieu.
Et puis la prison centrale de Bukavu est en voie de délocalisation vers un site plus sécurisé en milieu rural. L'heure est au terrassement et à l'implantation du terrain où l'on va ériger des bâtiments dignes d'abriter une prison moderne aux standards internationaux. Pour ce faire, le gouvernement a autorisé au ministère de la Justice de conclure un partenariat public-privé avec une société des droits congolais Babou Sarl. Jean Kassami nous apporte un éclairage.
Conformément à l'esprit du contrat, Babou SARL a offert un terrain de 10 hectares à Chombo, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu, dans le territoire de Kabare. C'est là où la même société s'engage à construire des bâtiments qui vont abriter la prison centrale de Bukavu une fois délocalisée. Christian Wandoma, avocat conseil.
La société avait exprimé l'intérêt de construire au compte de l'État congolais une autre nouvelle prison centrale dans les terrains de leur choix afin de désengorger l'actuelle prison centrale qui expose déjà les pensionnés qui sont hébergés à l'intérieur et pourquoi pas le citoyen qui habite à côté où à chaque fois qu'il y a évasion à la prison centrale, il y a des coups de balle qui arrivent même dans la résidence privée. C'est ce qui avait motivé ma cliente, c'était Babou, à saisir le gouvernement afin de pallier à ces problématiques.
En contrepartie, le gouvernement de la RDC s'oblige à céder à la société contractante tout l'espace que la prison centrale de Bukavu occupe dans un quartier populaire dans la commune d'Ibanda. La prison modernisée a une capacité d'accueil d'environ 3500 pensionnaires. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, plus de 20 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, il y a certaines présumées auteurs des actes de destruction le 31 décembre dernier de la permanence du parti politique Ensemble pour la République et d'autres soupçonnés d'avoir violenté une femme candidate le 20 décembre dernier. D'après Maurice Kamalama, procureur général du Kasaï oriental, les dossiers seront traités au cas par cas pour rétablir les responsabilités. Déjà ce mercredi, ces présumés auteurs des violences ont été présentés à l'autorité provinciale.
Actualité internationale.
Des milliers de Somaliens se sont rassemblés au stade Konis à Mogadiscio mercredi afin de manifester leur indignation face à l'accord récent entre l'Éthiopie et les Somaliland portant sur les baux maritimes et portuaires. L'Éthiopie aurait acquis un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans, suscitant des inquiétudes quant à la souveraineté de la Somalie.
L'invité.
La RDC commémore ce jeudi les 65e anniversaire de la mort de martyr de l'indépendance à Kinshasa, alors Léopoldville. Invité de Radio Okapi, l'écrivain André Yoka explique que le 4 janvier 1959 reste historique pour avoir déclenché les processus ayant abouti à l'indépendance du pays le 30 juin 1960. Il demande ainsi aux générations actuelles de rendre hommage vibrant à ces martyrs de l'indépendance qui, selon lui, ont fait preuve du courage et d'héroïsme pour mettre fin à la colonisation belge. André Yoka s'entretient avec Blaise Ndonga Lamayanda.
Vous venez de publier un article sur le tir de l'indépendance en revenant sur les faits marquant les événements du 4 janvier 1959. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette publication?
Il s'agit d'un article commémoratif sur les événements du 4 janvier 1959, où je signale que j'ai pu assister à des émeutes inattendues. De quoi s'agissait-il en deux mots? C'était en dimanche, c'était à la sortie d'un match de football. Pita Club qui jouait avec Mikado, une équipe qui n'existe plus. Mais au même moment, c'était le meeting programmé du président de l'ABAKO. L'ABAKO, c'est l'association des Bakongo, Joseph Kasavubu, à la place IMCA, au rond-point Victoire. Le destin fatal a voulu que, à la fin du match, Vita Club, qui était, comme aujourd'hui, une équipe populaire, ayant perdu, ses fanatiques se sont rués dans la rue, dans la colère. Et cette colère a rencontré l'autre colère, celle des adeptes de l'ABAKO, qui apprenaient sur le coup que leur meeting avait été annulé par l'administration coloniale belge. Et donc, ça fait un feu de brousse incroyable sur la place de l'IMCA. Cette colère s'est propagée comme un feu de brousse, je le disais, à travers les quartiers populaires de Kinshasa. Rankin, c'est-à-dire Matongé, c'est-à-dire la commune de Kinshasa, la commune de Barombou, la commune de Saint-Jean à l'époque, c'est-à-dire Lingwala aujourd'hui, et un peu la commune de Kitambo.
Donc, professeur, tout est parti de la place IMCA.
Voilà, tout est parti de la place IMCA avec un meeting avorté, celui de l'ABAKO. Toute la ville s'est enflammée. J'habitais chez mes parents à la commune de Kinshasa, et donc je suis venu au bord de l'avenue qu'on appelait Roi Baudouin, et j'ai vu défiler des jeunes, des femmes même, des femmes en train d'arracher tous les symboles de la colonisation. Les poteaux électriques, les indicateurs, etc. Mais c'est allé loin, parce que nos aînés qui revenaient du match nous disaient que l'église catholique Saint-Pierre, qui est dans la commune de Kinshasa, avait été pillée, saccagée.
Désacralisée.
Ah oui, oui, et même la procure des prêtres qui fait face à l'église, mais aussi l'église Saint-Paul dans la commune de Barombou avait été saccagée et tous les symboles sacrés de l'église avaient été emportés, les calices, les tabourets. Mes parents sont venus nous chasser et nous ramener vite à la maison, nous récupérer. Nous disaient que eux, ils avaient vu des sortes de nains, c'est de la rumeur, hein, des sortes de nains sortis d'outre-tombe qui manifestait une énergie et une force diabolique pour arracher des poteaux qui avaient été plantés là sur le béton depuis des années et des années. Et la force publique commençait à tirer sur les gens. Il y a eu des morts.
La force tirée à balles réelles, c'est ça?
La force tirée à balles réelles, parce que consciemment, inconsciemment, les émeutiers croyaient qu'ils étaient invincibles.
Comment vous évaluez l'apport des leaders politiques congolais de l'époque dans les processus de l'indépendance de la RDC?
L'ABAKO, c'est-à-dire l'Alliance du Bas-Congo, était le parti le plus implanté dans la ville de Kinshasa. Alors que les autres mouvements, comme le mouvement de conscience africaine, réclamaient une indépendance, comment dire, par étapes. L'ABAKO réclamait l'indépendance immédiate. Il faut reconnaître la contribution de l'ABAKO comme étant le fer de lance de ce mouvement-là a été déterminant pour ainsi précipiter l'indépendance du pays. Précipiter pourquoi? Parce que le 13 janvier, le roi des Belges, paniqué, disons ça comme ça, fait une déclaration où, pour la première fois, il évoque l'éventualité de l'indépendance du pays en des termes qui sont restés emblématiques.
Quelle est, selon vous, la leçon que les nouvelles générations peuvent retenir du combat mené par les martyrs de l'indépendance?
Il faut que les livres d'histoire reviennent sur le courage, l'héroïsme de nos pères, de nos grands-pères qui, ce jour-là, se sont levés comme un seul homme pour dire non à la colonisation et de la manière qu'il fallait.
Professeur André Yuka, Radio Capi vous dit merci d'avoir accepté de répondre à ces questions.
Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fête.
Ce journal est terminé, madame, messieurs. Mise en onde signée Polydor Basunga. Supervision et coordination, Martin Sebujangwe, Élisée Tchikota-Mwamboui. Au micro, Patience Ngalula Banangue. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.